Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Pour approcher, pour rencontrer le grand homme, avant de devenir soi-même un grand homme, pour que, jeune homme, on puisse saluer puis applaudir le grand comédien, pour cela, il fallait ruser. Et ce fut toute une expédition. Une histoire de lièvre, de perdrix et de caille. Plus tard, le jeune homme, devenu grand homme de lettres, allait publier les mémoires du grand comédien, recueillis et mis en ordre sur les papiers de son fils. Allons chez Talma, j'ai des billets à lui demander. À 11h, nous serons à sa maison de la rue de la Tour des Dames. Au jour et aux lumières, par Madame Béatrix Dussane, première diffusion sur la chaîne parisienne le 8 septembre 1957.
Au jour et aux lumières. Une émission de Madame Béatrix Dussane. Mise en page de Pierre Duflot.
J'ai reçu juste hier une lettre d'une de nos compagnes du dimanche qui me dit s'être beaucoup intéressée à Gérard de Nerval et aux Valois, mais que cela lui a compliqué la vie parce qu'elle a été obligée de faire un pari avec des amis. En effet, ses amis lui ont dit « mais ». Il y a aussi Alexandre Dumas, père, qui a beaucoup parlé de Villers-Cotterêts, de la forêt d'Hermenonville, du Valois, à plusieurs endroits. Ils me soutiennent, me dit cet ami, ils me soutiennent que c'est dans des romans, lesquels, et moi je crois que c'est dans les mémoires. Qui de nous a raison, qui va gagner le pari? Eh bien, chère madame, je ne sais pas, je crois que vous allez être obligée de partager l'argent du pari et d'en faire une cagnotte. Car en effet, Dumas a parlé du Valois, de Villers-Cotterêts et de toute la région, et même du voyage à Paris, dans deux romans, Ange Pitou et la comtesse de Charny, mais il avait d'abord, non pas parlé dans ses mémoires, mais d'abord vécu le Valois lui-même, et dans son enfance et dans son adolescence, et il a consacré plusieurs chapitres de ses délicieux mémoires, précisément à sa vie d'enfant à Villers-Cotterêts. Et c'est à ses mémoires que je vais emprunter les références et les anecdotes que je vais vous raconter maintenant. Et puis je vous renvoie à Ange Pitou et à la comtesse de Charny, si vous voulez, d'autres évocations encore. Vous savez que le père de Dumas était général de la Révolution et il avait épousé la fille d'un hôtelier de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts est une région très prospère parce que le château de Villers-Cotterêts appartenait à la famille d'Orléans avant la Révolution et cela attirait beaucoup de monde. La carrière du père Dumas avait été assez malheureuse. Il avait suivi Bonaparte à l'expédition d'Égypte sans trop l'approuver. Il ne s'était pas entendu et au retour, il avait été détenu par surprise à Naples par des partisans italiens et il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement dont il ne s'est jamais relevé. Sa santé était ruinée, il dut interrompre sa carrière militaire, il était dans une espèce de disgrâce vis-à-vis de Bonaparte, il ne put jamais obtenir véritablement de pension et il se retira dans sa famille, dans sa belle famille, à Villers-Cotterêts, où Alexandre Dumas père est né en 1802 et où le général devait mourir prématurément, je crois, vers 1805. La maman resta dans une situation difficile, encore une fois, ne pouvant pas obtenir de pension. Et heureusement, son enfant était le plus brave garnement de la terre. Je dis bien brave garnement, car très exubérant, très sportif, pas très studieux, mais très intelligent et plein de cœur. Enfin, à un moment donné, la maman avait trouvé une solution, quelqu'un payait l'éducation de l'enfant, mais il fallait le mettre en pension, et en pension au séminaire de Soissons. La maman avait du chagrin, Dumas aussi, il avait 10 ans à ce moment-là, Dumas aussi, et cela se passa 2 ou 3 mois, il résista pendant 2 ou 3 mois, sa mère insista, enfin, Un beau jour, on était décidé et il lui fallut aller acheter un encrier. Sa mère lui avait donné 12 sous pour acheter l'encrier. Chez le marchand d'encrier, Dumas rencontra une petite camarade qui se moqua de lui et de sa future carrière de prêtre. Il fut vexé autant qu'on peut l'être et il fit un coup de tête. Avec ses 12 sous, il acheta un pain, un saucisson, des vivres pour 2 ou 3 jours et il alla trouver un personnage pittoresque de Villers-Cotterêts qui s'appelait Boudou, qui était connu par un appétit absolument monstrueux. Il était capable de manger un veau entier sans se rassasier. Un aspect difforme, burlesque et une grande douceur. Il vivait un peu en braconnier dans la forêt de Villers-Cotterêts et son principal talent et son industrie même était le piégeage, si j'ose dire, des petits oiseaux, ce qu'on appelait la marette. On disposait au bord des mares des petits bâtons de glu où les oiseaux qui venaient boire s'engluaient. C'est affreux, c'est très laid, mais enfin, et c'était ainsi. Et Dumas n'hésita pas, il partit avec son saucisson et son pain, il alla trouver le père Boudou et il lui demanda de le cacher dans une de ses huttes. Il avait d'ailleurs prévenu sa mère en lui laissant un mot, « Je me sauve parce que je ne veux pas être curé ». Et Dumas raconte alors tous les détails de ce qu'on appelle la marette, c'est-à-dire le piégeage des oiseaux au coin ou au bord des petites mares. Et puis les choses s'arrangèrent bien sûr et Dumas ne partit pas pour le séminaire de Soissons. Quelques années passèrent et nous le retrouvons clair chez un notaire de Crépy-en-Valois. Il a à ce moment-là 17 ou 18 ans. Il commence à être féru de littérature. Il a vu une troupe ambulante représenter l'Hamlet de Ducis à Soissons. L'Hamlet de Ducis, ce n'est pas très Shakespeare, mais c'était déjà très Shakespeare pour un garçon de cette époque. Il en a l'esprit enflammé. Il ne rêve plus que de faire des pièces et d'aller voir porter ses manuscrits à Talma, au grand tragédien de l'époque, et d'aller voir cet homme dont la gloire l'enflammait à distance. Mais comment faire? Il n'avait pas d'argent. Un de ses amis, avec qui il avait un peu collaboré, Adolphe de Leuven, et qui devait blesser pour toute œuvre littéraire un peu durable le livret du Postillon de Longjumeau, un de ses amis était déjà à Paris avec mission d'essayer de placer les quelques manuscrits qu'ils avaient esquissés ensemble. Mais notre Dumas était impatient, il n'y tenait plus pour tout dire, et un beau jour, il décida, profitant d'une absence de son notaire de patron, il décida d'aller au moins pour 2 ou 3 jours à Paris voir ce que devenait Leuven et ce que, si on ne pouvait pas, approcher Talma. Or, ça c'était très joli, son ami, qui s'appelait Payet, était très gentil, très débrouillard, mais pas très riche. Hein. Allons passer 3 jours à Paris. Mais Payet fouilla dans ses poches et il en tira 28 francs. « Eh ben voilà, dit-il, tout ce que je possède, et toi ?»« Ben moi j'en ai 7, 28 et 7, 35. »« Comment dire, veux-tu que nous allions à Paris avec ça ? Nous avons déjà pour 30 francs de voiture, rien qu'à aller et revenir. »« Attendons, j'ai un moyen. »« Lequel ? Tu as ton cheval. » »« C'est Dumas qui a les idées, bien sûr. »« Tu as ton cheval, oui. »« Nous mettons nos habits dans un porte-manteau, nous prenons nos vestes de chasse et nos fusils, et nous nous en allons en chassant. »« En route, nous mangerons le gibier et nous ne dépenserons rien. »« Comment cela ? Ben c'est bien simple. »« D'ici à Dampmartin, n'est-ce pas ? » Nous tuons un lièvre, 2 perdrix et 1 caille. Oh ben j'espère bien que nous en tuerons plus que ça. Enfin, moi aussi je l'espère bien, mais je cote au plus bas. Nous arrivons à Dampmartin, nous faisons rôtir le derrière de notre lièvre, nous mettons le devant en civet, nous buvons, nous mangeons, et après ? Ben après, nous payons notre vin, notre pain et notre assaisonnement avec les 2 perdrix, et nous donnons la caille pour boire au garçon. Ah, il ne faut donc s'inquiéter que de ton cheval. Eh ben avec 3 francs par jour, on en verra le jeu. Mais pour qui diable nous prendra-t-on ? Oh ben par Dieu, pour des écoliers en vacances. Mais nous n'avons qu'un fusil, c'est tout ce qu'il nous faut. Un seul de nous deux chasse, l'autre le suit à cheval. De cette façon, il y a 16 lieues d'ici à Paris. Ça ne nous en fait que 8 à chacun. Et les gardes champêtres. Oh, le bel empêchement. Celui de nous deux qui est à cheval les aperçoit de loin. Il en prévient celui qui chasse, descend de son cheval. Le chasseur y monte, pique des deux, et avec un temps de galop sort du terroir. Quant au cavalier, le garde champêtre vient à lui, il trouve cheminant les mains dans les poches. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Ouais, ben vous le voyez bien. N'importe, dites, ben je me promène. Tout à l'heure, vous étiez à cheval, oui. Ben maintenant, vous êtes à pied. Ben oui, est-ce défendu, après qu'on s'est promené à cheval, de se promener à pied ? Non, mais vous n'étiez pas seul. Ah, c'est possible. Votre compagnon chassait, croyez-vous. Tenez, parbleu ! Le voilà là-bas à cheval avec son fusil. Ah, mon cher monsieur, s'il est là-bas à cheval avec son fusil, courez après et tâchez de l'attraper. Mais je peux pas courir après lui. L'arrêter puisqu'il est à cheval et que je suis à pied. En ce cas, vous feriez mieux, mon ami, d'aller jusqu'au premier bout de mon village et de boire une bouteille de vin à notre santé. Sur ce, toi ou moi, nous allongeons au brave homme une pièce de 20 sous que nous passons dans les profits et pertes. Le garde champêtre nous tire sa révérence, notre sang va boire à notre santé et nous continuons notre chemin. Et le plan est mis à exécution. Les voilà partis, ils vont coucher à Ermenonville. Ils avaient une tendresse pour Ermenonville, c'était pas le chemin direct, mais enfin, ils y tenaient. Et puis, ils font leur petit bagage et les voilà en route. Ils arrêtent donc à Ermenonville, ils furent bien reçus. Ben, on nous regardait d'un air de dire, ah ben, comme ça s'en va l'argent, et après deux ou trois mouvements de tête des plus philosophiques, nous nous remîmes en route, piquant droit sur Dampmartin, où nous devions déjeuner. Déjeuner ne nous inquiétait pas, il était dans le canon de notre fusil. C'était une terre très giboyeuse et parfaitement gardée que celle d'Ermenonville. Aussi, à peine eûmes-nous fait un quart de lieue, qu'en six coups de fusil, j'avais tué deux lièvres et trois perdrix. Le garde champêtre apparaissait à l'horizon, se découpait en vigueur sur le ciel blanchâtre et cotonneux. La manœuvre était indiquée d'avance et elle se déroule, je vous la résume, elle se déroule comme Dumas l'avait escompté. Nous alternâmes, je reprends le récit de Dumas, à 10h du matin, nous étions à Dampmartin avec trois lièvres et huit perdrix. Sur deux gardes champêtres qui nous avaient abordés, l'un avait majestueusement refusé les 20 sous, l'autre les avait bassement acceptés. Enfin, ils arrivent ainsi à Paris avec quatre lièvres, 12 perdrix et deux cailles. Nous avions au cours de la halle, dit Dumas, pour 30 francs de gibier. En arrivant à l'hôtel des Vieux Augustins, à Paris, Paillet se fit reconnaître et posa ses conditions. Il s'agissait, dit-il à notre hôte, d'un pari considérable que nous avions fait avec des Anglais. Nous avions parié aller à Paris et en revenir sans dépenser un sou. En conséquence, nous allions, pour gagner le pari en conscience, traiter avec notre hôte de notre chargement de gibier. Moyennant nos quatre lièvres, nos 12 perdrix et nos deux cailles, notre hôte s'engageait à nous nourrir et à nous coucher deux jours et deux nuits, nous, notre cheval et notre chien. En outre, il devait en partant nous munir d'un pâté et d'une bouteille de vin. À ces conditions, notre hôte nous déclara qu'il faisait une bonne affaire et nous offrit pour le moment de notre départ un certificat par lequel il attestait que chez lui, du moins, nous n'avions pas dépensé un sou. Nous le remerciâmes en lui disant que nos Anglais nous croiraient sur parole. Nous nous orientâmes, Paillet et moi, et nous allâmes prendre un bain. Avec toute l'économie possible, il nous fallait prélever sur notre reliquat une somme de 3 francs 50. Nous nous trouvâmes donc réduits à 24 francs 50 centimes. Notre patrimoine était en effet un peu réduit, mais nous étions arrivés et nous avions assuré la table et le lit pour 96 heures. Malgré la fatigue, je dormis mal, j'étais à Paris. Et le lendemain matin, à 7 heures, il saute du lit et il bondit avec Paillet chez son ami Leven, qui n'attendait pas sa visite. Il lui dit « Oui, c'est moi, c'est bien moi. Allez, réveillez-vous, habillez-vous, allons chez Talma. » « Chez Talma, quoi faire ?»« Non, oui, 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 j'ai des billets à lui demander. » « Mais que joue-t-il donc ?» Je tombais de mon haut. Adolphe habite en Paris, ignorant ce que jouait Talma. Enfin, Adolphe se lève et s'habille. À 11 heures, on sonne à la maison de la rue de la Tour des Dames qu'habitait Talma. Talma était à sa toilette. Mais Adolphe était un familier de la maison, on l'introduisit. J'étais, dit Dumas, de la suite d'Adolphe, comme Hernani était de la suite de Charles Quint. J'entrais tout naturellement derrière Adolphe. Talma avait la vue très courte, je ne sais pas s'il me vit ou s'il ne me vit pas. Il se lavait la poitrine, il avait la tête à peu près rasée, ce qui me préoccupa beaucoup. Attendu que j'avais 10 fois entendu dire que dans Hamlet, à l'apparition du spectre paternel, on voyait les cheveux de Talma se dresser sur sa tête. Il faut le dire, l'aspect de Talma dans ces conditions était assez peu poétique. Cependant, quand il se redressa, quand le torse nu, le bas du corps enveloppé d'une espèce de grand manteau de laine blanche, il prit un des pans de ce manteau qu'il tira sur son épaule et dont il se voila à moitié la poitrine, il y eut dans ce mouvement quelque chose d'impérial qui le fit tressaillir. Talma accepte de signer les billets. Ils vont le voir et ils reviennent le lendemain débordant d'enthousiasme. Dumas dit qu'il n'a pas vu Talma, ne saurait se figurer ce que c'est ce qu'il était, et Mademoiselle Mars n'était que la perfection du joli, Mademoiselle Rachel n'est que la perfection du beau, Talma, c'était l'idéal du grand. Et il revient le remercier, dévoré d'enthousiasme encore une fois, ne sachant plus que trouver, il se précipite pour lui baiser la main. Et Talma dit « Allons, allons, où ce garçon-là a de l'enthousiasme, on en fera quelque chose.
Au jour et aux lumières. C'était une émission de Madame Béatrix Dussane. Mise en page de Pierre Duflot.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 8 septembre 1957.